France Inter, il est tout juste 10h07, on retrouve Service Public avec Guillaume Erner.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Aujourd'hui, nos manières de consommer la culture sont en pleine révolution. On s'abonne pour pouvoir écouter de la musique, on s'abonne pour pouvoir regarder des films et peut-être même demain s'abonnera-t-on pour pouvoir lire des livres numériques. On en parle ce matin dans votre Service Public. C'est le nouvel objet qui fait fureur aux États-Unis, le nouvel objet à la mode des toilettes à bidet intégrées qui permettent de se laver. Enfin bref, vous m'avez compris. Des toilettes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Car figurez-vous que pour comprendre une civilisation, il n'est pas inutile de regarder au fond de ces toilettes. C'est ce qu'avait déjà souligné le philosophe Slavo Žižek. Je vous résume la théorie de Žižek. Dans les toilettes allemandes, expliquait-il, le trou se trouve bien à l'avant, de telle sorte que les matières sont visibles pour qu'on puisse sentir et repérer toute anomalie. Au contraire, dans les toilettes françaises, le trou est tout à l'arrière pour que les excréments disparaissent le plus vite possible. Le modèle américain présente une sorte de synthèse, une médiation entre ces deux pôles opposés. La cuvette est pleine d'eau, de sorte que les matières flottent bien visibles. C'est le laisser-faire. Aucun de ces types de WC ne peut se targuer d'être purement utilitaire. On discerne clairement pour chaque modèle une conception idéologique du rapport que chaque nation entretient avec ses excréments. Ainsi, en termes de modèle politique, ce triptyque peut s'analyser comme le conservatisme allemand, le radicalisme révolutionnaire français et le libéralisme anglo-saxon. Avec les toilettes bidet, le modèle américain montre qu'il a des remords, comme s'il avait en quelque sorte, les fesses sales. Nous en avons désormais la certitude. Le stade final du capitalisme, c'est le stade anal.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
La culture, ça n'est plus comme la confiture, on ne l'achète plus dans des magasins. Films, disques et même livres se distribuent aujourd'hui sous forme numérique. Est-ce bien, est-ce mal? Qu'est-ce que ça change sur nos manières d'appréhender la culture?
Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui c'est la sortie de Netflix. On va parler de Netflix en France, etc. Et le premier film que j'ai regardé, c'est After Porn Ends.
On va pas que parler de Netflix, on va en parler un peu grâce à son concurrent, Patrick Holzmann, bonjour. Vous êtes directeur de Canal Play, Hélène Mérillon, vous êtes présidente et cofondatrice de Ubox, une bibliothèque numérique illimitée. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, une bibliothèque numérique illimitée. Et puis enfin, Françoise Benhamou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la culture, vous avez observé cette révolution, ces mutations en cours dans le domaine de la culture et vous publiez le livre à l'heure numérique aux éditions du Seuil Papier Écran vers un nouveau vagabondage. Et avant de parler du papier, parlons de l'écran, Patrick Holzmann. En quoi consiste l'offre Canal Play?
Alors l'offre Canal Play est une offre de vidéo à la demande, par abonnement, qui permet à nos utilisateurs, à nos abonnés, de pouvoir regarder des films parmi une sélection de 10 000 programmes. On a des films, des séries télé, des programmes pour la famille, des programmes pour les enfants. Tous ces programmes sont disponibles et on peut les visionner sur tous les devices, tous les écrans.
Procédé.
Tous les écrans, que ce soit l'écran de télévision, l'écran d'une tablette, l'écran d'un ordinateur ou l'écran d'un téléphone. On a un prix extrêmement attractif puisque c'est un abonnement sans engagement qui est proposé pour moins de 10 euros par mois et qui est disponible sur à partir d'une box de son opérateur internet. Quand on s'abonne à l'internet, on peut accéder à ces services de vidéo par abonnement.
Est-ce que l'on peut regarder un film sans être nécessairement connecté sur internet?
Alors, il faut de toute manière être abonné au service de type Canal Play et ensuite vous pouvez activer une fonction qui s'appelle le téléchargement temporaire qui vous permet en effet, quand vous êtes sans internet, de pouvoir regarder un film.
Et ça, c'est donc l'une des spécificités de votre offre, celle d'avoir un mode résident qui permet donc de transporter en quelque sorte ses DVD. Et puis, l'autre nouveauté, c'est la possibilité de transporter sa bibliothèque. C'est encore plus magique car les livres pèsent lourd. Hélène Mérillon, c'est ce que vous proposez au travers de Ubox. Expliquez-nous en quoi consiste Ubox.
U-Books, oui, c'est tout à fait ce que vous avez décrit, c'est-à-dire c'est une bibliothèque de livres numériques qui propose 100 000 livres francophones aujourd'hui sur tablette et smartphone, mais également sur un site web, et donc sur un principe d'abonnement, donc qui est similaire à Canal Play ou à Deezer, qui existe sur d'autres biens culturels. Donc vous allez télécharger une application U-Books sur votre smartphone ou votre tablette, et puis vous pourrez donc accéder à volonté à ces 100 000 livres qui vous sont proposés. Ce sont 100 000 livres qui sont dans toutes les catégories. Donc vous pourrez aller lire une bande dessinée de Lucky Luke ou bien lire un roman de Nicolas Rey. Vous avez également des livres de cuisine, des guides de voyage. Donc c'est vraiment la lecture au sens large et avec toute la liberté que permet l'abonnement U-Books, donc qui coûte 9,99€ par mois sans engagement.
Alors pour ce faire, il faut évidemment une liseuse ou un appareil électronique type tablette ou éventuellement évidemment sur un ordinateur. On a la possibilité donc de lire ce que l'on veut, pas les nouveautés, car c'est une manière de protéger les librairies, c'est cela ?
Alors, certains de nos éditeurs partenaires, U-Books a 220 éditeurs français partenaires de la plateforme aujourd'hui, et certains d'entre eux nous donnent leurs nouveautés en même temps qu'ils les publient en librairie. Mais pour l'essentiel, il y a quand même une chronologie qui s'est installée naturellement, c'est-à-dire qu'on vient en renfort dès que les livres finalement sont sortis en librairie. Eh bien, on propose nous une sélection et un fonds éditorial très large dans lequel nos lecteurs peuvent piocher.
Alors, on l'entend évidemment, tout ceci représente une révolution. Une révolution, ça veut dire des gagnants et des perdants. Les perdants, ce seront peut-être les librairies, et les librairies nous sont chères. On va voir comment le livre va évoluer avec cette révolution technologique. On va voir tout cela après Fauve Talula.
Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Je suis un peu fébrile et toi t'as cet air un peu songeur. Tu fais ce bruit avec tes lèvres que je connais par cœur. Les mots se font rares mais peu importe, les silences comptent aussi et on a toute la nuit. Alors que l'odeur d'amandes sucrées, nos haleines alcoolisées nous revient par la baie qu'on expire. Alors les langues se délient, alors on ose enfin parler, se dire les choses. Tu es parti, je suis resté, on a changé. On s'est construit chacun de notre côté, j'ose pas trop le dire mais souvent tu me manques. Et je suis heureux à cet instant de pouvoir simplement te regarder. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois. Réflexe bizarre je sais, mais je voudrais que ce moment s'arrête pas. Si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les seuls moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Alors que nos visages engourdis par le froid brillent sous le crachin nocturne, alors on discute à bâton rompu comme à cette époque bénie où tu partageais ma vie. J'aime toujours ce que tu es, en fait même plus qu'avant je crois, maintenant que t'es plus là. Et puis y a quelque chose de plus lumineux, de coloré, de plus vivant. Je trouve ça séduisant. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois. Réflexe bizarre je sais, mais je voudrais vraiment que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir. Alors mon cœur s'emballe mais je le garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet. Toujours ce briquet dans ma poche. Je fais des étincelles par série de trois. Réflexe bizarre, je sais, mais je voudrais que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Et si le bateau coule, si le bateau sombre,
Service public sur France Inter, les nouveaux modes de consommation culturelle. Et ce qui est bien avec ce sujet, c'est qu'on peut faire une émission sur ce thème à peu près tous les 2 ou 3 ans, tant il y a eu de révolutions dans le domaine de la consommation culturelle. On en parle avec Hélène Mérillon qui présente YouBooks, une bibliothèque numérique illimitée, Patrick Holzmann qui est directeur de Canal Play, et Françoise Benamou qui est économiste spécialiste de la culture, auteur du livre À l'heure numérique aux éditions du Seuil. Et si l'on s'éloigne un peu du livre, Françoise Benamou, l'une des premières révolutions, elle a concerné le disque. On a connu ce qu'on appelait le micro-sillon. Il y a eu les 33 tours, les 45 tours qui représentaient une nouveauté, puis le CD. Puis ça s'est accéléré. Et là, on a vu que c'était l'économie tout entière d'un secteur qui était en plein bouleversement. Expliquez-nous quelles ont été, selon vous, les principales étapes de cette révolution.
Oh, il s'est passé quelque chose de presque incroyable pour une industrie, fut-elle culturelle. C'est-à-dire que c'est une industrie qui a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en une dizaine d'années du fait du numérique. Pourquoi ? Parce que les usagers ont migré de manière massive vers le numérique et le numérique rapporte moins d'argent, on écoute plus de musique, mais ça rapporte moins d'argent, et donc les revenus de l'industrie musicale se sont effondrés. Et puis, petit à petit, se mettent en place, mais très lentement des nouveaux modes de consommation qui vont permettre de valoriser de nouveau l'offre. Et parmi ces nouveaux modes de consommation, il y en est un qui est en train de prendre véritablement de l'importance. Il y a quelques années, on savait même pas que ça pourrait exister. C'est ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire l'abonnement illimité à des catalogues donc de titres musicaux à peu près illimités, et ces abonnements peuvent être soit gratuits et financés par de la publicité, soit de vrais abonnements payants, et ça prend une importance considérable. C'est-à-dire ça représente la moitié aujourd'hui des revenus de l'industrie musicale au niveau mondial et au niveau français, et à peu près le tiers au niveau mondial.
Alors ces offres, elles existent grâce à Spotify par exemple, grâce à Deezer
qui est français, qui propose, comme son nom l'indique, pas oui,
qui propose donc des offres d'abonnement musical. Elles sont parfois fournies par les fournisseurs d'accès, et dans ces conditions, on n'a parfois même pas conscience d'être abonné à ces services. Et ce qui est intéressant, Françoise Benamou, c'est que le chiffre d'affaires du secteur musical, il ne s'est pas effondré en quelque sorte par magie. Il y a eu destruction de valeur, et cette destruction de valeur, elle a des coupables et des responsables identifiables.
Oui, alors il y a eu évidemment l'importance du téléchargement illicite, illégal, qui était considérable et qui a énormément affecté les revenus de l'industrie musicale. Il y a eu sans doute aussi ce qu'on pourrait appeler un retard à l'allumage de la part des labels. C'est-à-dire pendant un temps, ils n'ont pas trop cru à cette révolution numérique. En tous les cas, ils ont freiné le changement, ils ont hésité sur les nouveaux modèles. Alors il faut dire que c'est pas facile, et c'est vrai que ce qu'on gagne dans le monde numérique est toujours plus faible que ce qu'on gagne dans le monde physique. Donc ce changement, on le voit bien dans la presse, on le voit aujourd'hui dans le livre, on l'a vu dans le cinéma. C'est vrai que c'est pas facile à prendre comme tournant, donc il y a eu ces difficultés-là. Aujourd'hui, il y a vraiment de nouveaux modèles, par exemple, dans les relations, par exemple, entre les labels et les artistes. Aujourd'hui, on signe des contrats qu'on appelle 360, ce sont des contrats qui couvrent la totalité des activités des artistes. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien l'enregistrement de la musique, que les concerts, que les produits dérivés, etc.
Patrick Holzmann, vous qui dirigez Canal Play, est-ce que vous avez l'impression d'appauvrir l'industrie du cinéma ? Alors, ce qui est certain, c'est que votre forme d'abonnement est en train de faire disparaître les vidéoclubs. Est-ce qu'on a affaire, là aussi, à une mutation qui va détruire un certain nombre de métiers qui existaient sur la chaîne ?
Vous parlez des vidéoclubs, on n'a bien sûr rien contre les vidéoclubs, bien au contraire. On adore tous les vidéoclubs, puisque c'est ce qui nous a donné l'envie et ce qui nous a fait aimer le cinéma et les séries. Ce qui d'abord est tout d'abord destructeur de valeur, avec ces nouveaux usages, c'est le piratage. Le piratage est un problème important en France, on l'a connu à un moment sur la musique, on le vit totalement sur le film et le cinéma en ce moment, et surtout on voit des nouvelles générations, on voit des enfants, des jeunes qui aujourd'hui piratent très facilement, très normalement, sans peur, sans crainte. C'est presque branché aujourd'hui de pirater un programme. Donc la première chose que les services légaux doivent pouvoir créer sont des plateformes qui permettent de donner accès à des programmes facilement, avec une expérience sympathique, c'est-à-dire qui permet de naviguer, de sélectionner un programme.
Faut que ce soit facile à faire,
qu'on puisse profiter de son programme un petit peu partout, n'importe quand. Ça, c'est le premier objectif et la première mission que se doivent être de proposer les plateformes.
Quand on loue un film sur Canal Play, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut parler de location, quand on le visionne, en tout cas, est-ce que vous connaissez la somme qui va aller à la personne qui a tourné le film et les multitudes d'ayants droit derrière, puisque l'une des principales critiques qui est adressée à ces services d'abonnement, c'est finalement d'appauvrir les artistes en leur versant uniquement des sommes ridicules.
Alors, la vidéo à la demande a plusieurs types d'exploitation. On a une exploitation d'abord transactionnelle, c'est-à-dire un petit peu ce qui se rapproche de la location du vidéoclub. Une personne loue un film. Quand une personne loue un film, l'ayant droit, le propriétaire du film, le producteur, récupère, ça varie entre 60-70% des montants qui ont été encaissés par la plateforme auprès de la personne qui a visionné le film. Donc vous avez cette remontée d'argent qui est directe, qui est automatique, très claire, très transparente. Ensuite, c'est l'économie du film. Il va falloir rémunérer ceux qui ont fait de la publicité, les comédiens, les réalisateurs.
Même question, Hélène Mérillon, puisqu'on se dit que si on s'abonne pour lire des livres, c'est ce que vous proposez au travers de l'offre YouBooks, d'abord, on a très peur, évidemment, que cela cause un tort irréparable aux librairies.
Oui, alors bon, c'est l'inquiétude, en effet, d'ailleurs légitime, qu'on pourrait avoir face à des modèles d'abonnement en illimité. Parce qu'on se dit tout de suite, bon, bah, finalement, si c'est illimité... le prix est ridicule par livre. Alors, c'est complètement faux, en fait. D'après les chiffres de YouBooks, puisque donc nous, on existe depuis maintenant 3 ans, on a 700 000 utilisateurs, on a aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure d'affirmer qu'un service d'abonnement aux livres, même en illimité, est rémunérateur pour les éditeurs et donc pour les auteurs. Nous, aujourd'hui, pour 1000 pages lues sur YouBooks, on reverse entre 7 et 10 euros aux éditeurs. Et dans certains cas, eh bien, les sommes qui sont reversées aux éditeurs partenaires de la plateforme dépassent les sommes qu'ils vont pouvoir toucher sur la vente de livres.
Pour 1000 pages vues, c'est-à-dire environ pour 5 livres, vous versez 10 euros, ça fait 2 euros par livre.
Alors, un livre fait plutôt entre 300 et 500 pages, mais si vous voulez...
On ne va pas se battre sur le nombre de pages, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est
YouBooks,
que ça...
Chez YouBooks, chaque page lue est rémunératrice. Donc, en fait, il y a plusieurs lectures aussi.
Françoise Benamou.
Oui, c'est un vrai sujet et c'est un vrai problème. Alors, on le voit déjà dans la musique où pourtant les modèles sont plus arrêtés déjà. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs des protestations aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'artistes parce qu'un abonnement en streaming musical, c'est 9,99€ par mois. Et il reste quoi à répartir sur toute la chaîne musicale ? C'est-à-dire ce qui va remonter sur toute la chaîne et ensuite, tout particulièrement sur les artistes. Pour les artistes, c'est quelque chose comme 0,46€ sur les 9,99€ d'abonnement illimité par mois.
À répartir
donc, c'est
parmi
très peu.
Tous les artistes.
Voilà. Et donc, ça, c'est évidemment le sujet crucial. Parce que, dans le fond, ce mode de consommation, on peut se dire qu'il va être complémentaire des autres et qu'on va avoir un paysage qui va se développer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, avec des usages très différenciés, dont celui-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé, et c'est ce qui inquiète les éditeurs et aussi les auteurs, le modèle qui permet de faire remonter sur la chaîne du livre ce qu'elle peut attendre de ses efforts.
C'est ce qui devrait également inquiéter la société tout entière, puisque ce qui est en cause, évidemment, c'est le pluralisme et la diversité des offres, tout simplement parce que si... Je prends l'exemple musical, mais on pourrait le prendre dans la littérature ou dans les films. Si les sommes sont petites, si les sommes reversées sont petites, seuls les gros survivront, évidemment.
C'est une des grandes questions. C'est une question qui s'est posée dès le début, hein, pour le livre avec Amazon. Hein. C'est-à-dire, la question était la suivante. On vend des livres physiques, il ne s'agissait même pas de livres numériques à ce moment-là. On vend des livres physiques sur Amazon et de plus en plus. Et dans le fond, parce qu'il y a cette surabondance sur Amazon, le fait qu'il y a un fonds qui est extrêmement important, est-ce qu'Amazon n'allait pas prendre un pouvoir de marché, n'allait pas acquérir un pouvoir de marché tel que ça pouvait écraser l'ensemble de la chaîne de librairie. Mais là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, et on le voit aussi dans le cinéma d'ailleurs, c'est que le numérique ne fait pas disparaître le monde physique, parce qu'il y a aussi un appétit quand même pour la socialisation si vous voulez. Et on le voit bien, par exemple, regardez, les salles de cinéma sont pleines, alors qu'on peut voir les films autrement. Et pourquoi elles sont pleines ? Parce qu'on attend aussi quelque chose d'autre, c'est une sortie. Et de la même manière, la librairie, elle apporte quelque chose que le numérique ne donne pas. C'est un lieu où on va, et d'ailleurs les librairies aujourd'hui offrent un service très diversifié. Elles sont quelquefois devenues aussi des salons de thé, des lieux où on achète autre chose que des livres, etc.
Oui, mais justement, lorsqu'on voit l'évolution aux États-Unis où le livre numérique est beaucoup plus diffusé qu'en France, 12% je crois.
Oh non, beaucoup plus, 30%.
30%. Oui. Donc le livre numérique qui est beaucoup plus présent, on voit aujourd'hui que la plupart des librairies ont sinon disparu, du moins ce sont des librairies qui appartiennent à des chaînes. On voit également que la librairie américaine ne propose que des nouveautés, et ça c'est quelque chose d'extrêmement décevant lorsqu'on est un gros lecteur.
Ne mettons pas sur le dos du numérique trop de choses, parce que c'est un mouvement qui existait bien auparavant, hein, le poids des chaînes aux États-Unis, en fait, il a largement préexisté. Il a écrasé les indépendants. En Angleterre, pareil, hein, il y a pratiquement plus de librairies indépendantes. C'est bien plus dû au fait qu'il n'y a pas cette espèce de protection que constitue la loi sur le prix unique du livre qui existe en France que du fait du numérique.
Hélène Mérillon, oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je reviens un petit peu sur ce que disait Françoise, qui me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire, je pense vraiment que la lecture numérique et les librairies sont complètement complémentaires. Et d'ailleurs, je pense que les modèles d'abonnement en streaming sont encore plus complémentaires de la librairie que le sont les ventes de livres numériques. Nous, c'est bien ce que j'expliquais un petit peu avant. C'est-à-dire que notre sujet n'est pas de proposer les dernières nouveautés qui sortent en librairie. Au contraire, on vient en relais de ça et apporter une diversité et une plateforme de découverte et des outils de découverte qui sont vraiment complémentaires des libraires. Par contre, ce qui me paraît un petit peu dangereux, c'est de faire une analogie trop immédiate entre la musique et le livre, parce qu'on ne consomme pas des livres comme on consomme de la musique. Et aujourd'hui, les rémunérations assez faibles qui sont observées sur les artistes, pour les artistes dans le secteur de la musique, on n'observe pas du tout les mêmes dans le streaming du livre. Donc, je le redis, entre 7 et 10 euros pour 1000 pages lues, c'est pas du tout ridicule comme rémunération par rapport à ce que touche un éditeur lorsqu'il vend un livre, puisque après tous les frais de distribution, etc. Et aujourd'hui, dans certains cas, l'éditeur va toucher plus sur une lecture sur U-Books, on l'a observé, que sur une vente. Par contre, ce qui est important, évidemment, c'est de construire avec les éditeurs, et c'est ce que U-Books fait par rapport à d'autres comme Kindle Unlimited. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est construire un modèle pérenne. Parce que, à mon sens, le streaming va arriver dans le livre comme il est arrivé dans les autres biens culturels. Mais il doit encore trouver son modèle. Et c'est important de trouver un modèle qui permette une juste rémunération de la chaîne du livre. Parce que je crois que les libraires sont très utiles, tout comme un acteur de streaming va également pouvoir développer la découverte et la lecture. Les libraires jouent un rôle très important qui est, en effet, c'est un lieu où on vient échanger, découvrir et acheter les nouveautés.
Il y a la librairie qui risque de disparaître suite à ces offres-là. Il y a la librairie d'occasion, les bouquinistes, ça aussi c'est un autre secteur. Et malgré tout, Françoise Benhamou, on ne s'oriente pas dans une bibliothèque numérique de la même façon qu'on s'orientait dans une bibliothèque physique avec, en quelque sorte, le plaisir de la découverte jadis, qui est plus compliqué sur écran.
Oui, bien sûr, nous, ce sont deux mondes différents, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on bascule vers le numérique, et pour l'instant, ça n'élimine pas le monde physique, c'est vrai que on ne lit pas de la même manière, on ne choisit pas ses livres de la même manière, on ne s'oriente pas de la même manière, mais pour l'instant, on observe plus des complémentarités que des substitutions. Ce qui est sûr, c'est que le streaming illimité répond à certains fondamentaux, si je puis dire, de la consommation dans le monde numérique, hein. C'est-à-dire que les gens attendent de la surabondance, ils en trouvent. Ils sont moins sensibles à la propriété des œuvres. Ils lisent, mais ils ne sont pas nécessairement attachés au fait de posséder le livre. Et dans le fond, si le livre leur a plu, ils l'achèteront après, au lieu de l'acheter avant. Ça, c'est quelque chose qu'on observe. Et puis, il y a une rupture par rapport à l'achat à l'unité, qui pose d'ailleurs des problèmes de régulation et de compatibilité avec la loi Lang.
On continue à parler des différents abonnements à des biens culturels, car aujourd'hui, la culture, ça se découvre ainsi, et on va marquer une page musicale, un disque qui n'a pas été loué, mais acheté par France Inter, Aura Sandy, Horse With No Name.
On the first part of the journey, I was looking at all of life.
There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a flying bus and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. I've been to the desert with a horse with no name. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn. For 3 days in the desert fun, I was looking at a river bed, and the story I told and the river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been to the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La 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 la. Perfect disguise above. Under the cities is a heart made of clay, but the humans will give no love. I've been to the desert with a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one to give you no pain. La la. Remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La 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 la.
Service public sur France Inter, les nouveaux modes de consommation culturelle. On en parle en compagnie de Patrick Holzmann, qui dirige Canal Play, une offre de films proposée donc sur Internet. Hélène Mérillon, qui préside YouBooks, une offre de livres, cette fois-ci sous forme numérique. Et Françoise Benamou, économiste, qui publie le livre à l'heure numérique aux éditions du Seuil. Notre reporter numérique, Lénora Krief. Bonjour Lénora.
Bonjour.
Vous
bien.
Êtes penchée donc sur ce nouveau phénomène dont nous parlons ce matin, un nouveau phénomène qui s'appelle le streaming, autrement dit la possibilité d'écouter en continu, c'est compliqué à traduire en français, la possibilité d'écouter en continu par le biais d'un abonnement de la musique.
Oui, cette forme de consommation numérique de la musique consistant à écouter sans télécharger progresse. Les services de streaming comme Spotify, Deezer, YouTube et bientôt Apple facturent à peu près 10€ par mois l'accès à tout leur catalogue d'albums et de playlists. Ceux qui ne souhaitent pas s'acquitter de cette somme sont soumis à la publicité. Une voix, vous savez, vient vous rappeler tous les 2 ou 3 morceaux qu'en vous abonnant, vous ne serez plus dérangé dans votre écoute. Une méthode redoutable. Ces nouvelles façons de consommer la musique semblent aujourd'hui se généraliser et j'en ai fait le constat en interrogeant des jeunes dans la rue.
Plutôt streaming, ouais.
En streaming aussi.
Sur quel site de streaming ?
YouTube.
Question piège.
Moi, Spotify.
Spotify.
Sur YouTube.
bizarre.
Où est-ce que vous découvrez de nouveaux artistes, des nouveautés musicales aujourd'hui ?
Moi, plutôt la télé et la radio.
Moi, par des amis, souvent.
Amis et Spotify, beaucoup. C'est grâce aux playlists que je découvre les albums, du coup. C'est...
Bah justement, sur YouTube, en regardant les nouvelles vidéos.
La télévision, voilà. iTunes, bouche à oreille.
Ouais, exactement, bouche à oreille, plutôt. Ouais.
Quand je vais sur Deezer, je vois les autres artistes. Donc c'est un site à aller voir ce qu'ils font.
Sur ces sites, vous écoutez plutôt des albums ou bien des playlists ?
Plutôt des playlists, parce que je suis des personnes, en fait, sur ces sites et qui, eux, ont fait eux-mêmes leurs playlists.
En album ?
Plus des playlists.
Moi, les playlists.
Playlists.
Des playlists. Ça, par contre, je suis un peu plus playlist, ouais.
Je suis ensuite allée frapper à la porte de notre expert en musique, Didier Varro, directeur artistique et musical de l'antenne, et j'ai découvert qu'il appartenait lui aussi à la communauté des abonnés sur Deezer.
Vous voulez aller sur mon compte Deezer, mais c'est très 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 indiscret là, ce que vous me demandez. Ces plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer et bientôt celle de Apple qui arrive, de iTunes, c'est la plus grande radio des temps modernes.
Eh bien justement, c'est là où je voulais en venir avec vous. De nombreux internautes découvrent de nouveaux artistes par le biais de ces services d'écoute en streaming. Et vous, en tant que programmateur musical, est-ce que vous vous sentez menacé par des sites comme Deezer, Spotify ou YouTube ?
Menacé, non. Parce qu'on aura toujours besoin de gens qui connaissent leur métier et qui précisément vont faire acte de prescription. Si vous regardez bien, là nous sommes dans le top des playlists. C'est quand même extrêmement intéressant par rapport à votre question, parce qu'aujourd'hui ça signifie quoi ? Qu'on a une écoute de plus en plus aléatoire, ce qu'on a appelé la génération random, ou la génération qui écoute de manière aléatoire la musique. Et ces plateformes de téléchargement et d'écoute, de streaming, ont aussi beaucoup misé sur la thématisation de la musique. Alors, bon, ça, c'est le générique du top 50. Vous voyez ? L'enchaînement là entre le générique du top 50, Patrick Bruel, Place des Grands Hommes, et les communards, au niveau de l'enchaînement, c'est pas top.
Oui, donc la top 50 de Deezer, il y a quand même des choses à revoir.
Au niveau de la thématique, pas de problème, ce sont tous des artistes des années 80 qui ont été classés au top 50.
Mais sur la fluidité de l'enchaînement et sur la cohérence voilà. Même de l'enchaînement.
Là, ils vont essayer, à mon avis, vous voyez, entre Huey Lewis. The Power of Love et Éteins la lumière, Axel Bauer. Ouais, il y a de la guitare, donc là il y a un enchaînement. Mais juste derrière, Cyndi Lauper, waouh.
Vous êtes assez critique envers cette playlist.
Un petit peu, allez, mais c'est normal. Voilà, j'utilise aussi Deezer, mais encore une fois, moi je l'utilise comme un programmateur, comme un fou de musique qui va... Par exemple, quand je reçois, vous voyez, là, vous voyez quand même que dans mon bureau, il y a beaucoup de disques.
Je le confirme.
Dans une perspective...
De CD physique.
Qui est celle du CD physique, voilà. Mais je n'écoute pas tous les albums qui sont sur mon bureau. En revanche, il m'arrive très souvent d'écouter un titre ou deux de l'album, de noter, et le soir, hop, pendant que je prends mon métro, hop, je vais me mettre sur Deezer et je vais pouvoir écouter l'entièreté de l'album, des titres que j'ai pu repérer dans la journée dans mon bureau. Donc voilà, moi, j'utilise ces plateformes de streaming pour approfondir ma connaissance sur un artiste plutôt que pour découvrir la musique.
Beaucoup de scoops dans ce reportage, Lenora Krief. Tout d'abord, Didier Varro écoutant Patrick Bruel.
Et c'est puis la également. De Deezer, ce n'est pas la sienne.
Bon, on l'a quand même entendu écouter du Patrick Bruel. On en discutera tous ensemble. En tout cas, un vrai sujet à cet égard, Françoise Benamou. La manière dont on va cheminer, dont nos goûts vont évoluer à partir donc de ces playlists, de ces listes de disques à écouter avec plusieurs termes techniques, la prescription, le filtrage collaboratif. Est-ce que c'est un vrai sujet, comme le choix est ultra abondant dans ces abonnements ? Comment fait-on pour s'y retrouver ? Et finalement, culture va-t-on se façonner avec ces usages numériques ?
C'est un sujet absolument fondamental hein, que celui de la prescription, c'est-à-dire dans le fond, comment on se repère, où on va dans le monde numérique, parce que c'est extraordinaire d'avoir cette surabondance, mais faut-il encore trouver des cheminements ? Donc il y a deux questions différentes qui sont posées d'ailleurs. Comment on va puiser dans les fonds de catalogue ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce que grâce au numérique, étant donné que tout est théoriquement en tout cas disponible, est-ce qu'on va faire revivre des œuvres oubliées et qui valaient le coup, leur donner une deuxième vie, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, comment on découvre de nouveaux artistes ? Et est-ce qu'on n'est pas encore plus manipulé dans le monde numérique que dans le monde physique ? Là, il y a tout, il y a une chose et son contraire.
Attendez, au début, lorsqu'on crée le monde numérique, on nous a expliqué, au travers d'une théorie qui s'appelait la longue traîne, on nous a expliqué que ça allait être génial parce qu'on n'aurait que des niches. Autrement dit, si on aimait le chant serbo-croate, bah, ça allait être merveilleux parce que le chant serbo-croate allait pouvoir exister. Et puis au final, on voit surtout les Daft Punk. J'ai rien contre les Daft Punk, mais c'est pas du chant serbo-croate. Est-ce que ça veut dire qu'on nous aurait menti, Françoise Benamou ?
Bah oui et non, parce qu'avec d'autres chercheurs, on a travaillé là-dessus sur des données vraiment de consommation musicale, de vidéos, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a deux phénomènes, c'est-à-dire le star system est encore plus fort. Avec le numérique, c'est-à-dire les gens qui sont connus le sont plus encore, ils sont encore plus écoutés, plus lus, etc. Mais en même temps, dans le même temps, à l'autre bout du spectre, si je puis dire, vous avez des petits artistes ou des petits auteurs qui produisent des produits qu'on appelle de niche et qui vont arriver à repérer leurs consommateurs potentiels et à les atteindre. Et c'est un petit peu au milieu que ça bouge pas. Mais en tous les cas, ces deux phénomènes-là, ils sont forts. Hein, c'est-à-dire à la fois plus de star system, mais en même temps plus de micro-émergence à la faveur du numérique.
Patrick Holzmann, dans le domaine du cinéma, qu'est-ce que ça donne les gens sur Canal Play ? Qu'est-ce qu'ils regardent ?
Alors, je vais revenir un instant sur la consommation de la vidéo à la demande, où il faut vraiment distinguer ce qu'on appelle la vidéo transactionnelle sur les programmes premium.
Il va falloir que vous traduisiez. Parce que la vidéo transactionnelle sur les programmes premium,
en gros,
vous allez avoir des gages.
C'est comme dans le livre ou dans la musique, c'est les personnes qui ont envie de voir un produit récent, un produit star system. Si on veut s'exprimer comme ça.
Vous avez du mal hein, à ne pas employer des mots anglais.
Et donc, sur ces programmes, en effet, les films qui sont, ou les séries qui sont extrêmement connues, sont consommés. Mais parallèlement à ça, les systèmes par abonnement ont fait sauter tous les freins de consommation. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène tout à l'heure, c'est qu'on a de plus en plus de consommation parce que quand on est abonné à quelque chose, on n'a pas peur d'acheter une musique, un livre ou un film qui ne va pas nous plaire. S'il ne nous plaît pas, on le remet dans sa vitrine, on le remet dans l'étagère et on passe à autre chose. Donc il y a de plus en plus de consommation sur des produits qui ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle des locomotives. Et ça fait du bien à la musique, au cinéma et au livre.
Prouvez-nous-le. J'ai bien envie de savoir si dans votre offre Canal Play, il y a des films qui sont particulièrement visionnés que vous ne vous attendiez pas à voir en haut des visionnages. Donnez-nous des exemples.
Alors, on rebondissait un petit peu sur l'actualité de Canal Play, qui est depuis quelques semaines le lancement des digital formats, c'est-à-dire des séries, des programmes courts sur des sujets qui sont clivants, beaucoup plus pointu, soit lié à l'actualité, soit des sujets de niche, si on veut s'exprimer de cette manière. Et on a lancé des nouvelles séries, des nouveaux formats depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et on a le plaisir et la joie de voir que ces nouveaux formats sont capables de rivaliser avec les plus grandes séries ou les plus grands films de cinéma qui sont sortis en salle. Donc ça montre bien que, à la fois, ce qu'a envie de retrouver un abonné, c'est un produit rassurant, mais également un produit nouveau qui est capable de le surprendre, de l'étonner. Et de toute façon, qu'on soit par abonnement, qu'on soit dans la musique ou dans le cinéma, ce que veulent nos abonnés, ce sont des bons produits, des bons films et des bonnes musiques. Si ce sont des mauvais produits, de toute façon, ils ne marcheront pas, que ça soit en boutique ou que ça soit sur du digital.
Être surpris, ça peut être, par exemple, une prescription de France Inter, ce qu'on appelle la playlist Claire de Namur, rien de moi. Et tout de suite après, on continue à évoquer ces nouveaux modes de consommation culturelle.
Je ne sens plus rien, plutôt. démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps d'un aplomb plus haut. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse.
Service public sur France Inter, les nouveaux modes de consommation culturelle. On en parle en compagnie de Françoise Benamou, économiste, qui publie le livre à l'heure numérique aux éditions du Seuil, et de deux exemples d'abonnement à des biens culturels. L'exemple du cinéma avec Patrick Holzmann qui dirige Canal Play, l'exemple du livre avec Hélène Mérion, qui propose au travers de YouBooks une bibliothèque numérique illimitée. Hélène Mérion, on se dit, et on l'a dit, que pour les libraires, évidemment, ça représente une grave concurrence et que ça pourrait représenter aussi à terme un risque pour les éditeurs.
Alors, chez YouBooks, on ne vend pas de livres, donc on n'est pas concurrent directement des librairies. On vend un service de découverte qui permet en effet d'accéder de manière temporaire aux livres.
C'est un peu la même chose quand même.
Alors, pas exactement, non, pas exactement, parce que d'abord, on a un fonds éditorial chez YouBooks qui n'est pas forcément les nouveautés des 3 ou 6 derniers mois que les libraires vendent. Donc
parce
ça vient en
pas
complément
vous les donner
de la librairie. Et puis parce qu'il y a une chronologie naturelle qui s'est installée. Et c'est pas parce qu'un livre a plus de 6 mois qu'il n'est plus intéressant. Donc en fait, nos lecteurs sont ravis avec le catalogue de 100 000 livres qu'il leur est mis à disposition. Et la deuxième chose, c'est les partenaires éditeurs qui sont partenaires de YouBooks, donc on en a 220, sont avec nous aussi parce qu'on leur propose une extension de marché. On va aller chercher de nouveaux publics, notamment les jeunes, puisque la moyenne d'âge des lecteurs de YouBooks est à 35 ans. Donc on va aller chercher des jeunes publics dont on dit souvent les jeunes ne lisent plus, mais en fait nous chez YouBooks on voit bien qu'ils lisent et qu'ils lisent de plus en plus. Simplement il faut leur proposer un service qui répond à leurs nouveaux usages. Ce sont des générations plus zappeuses qui sont dans l'ère de l'accès déjà, et donc ils recherchent cet accès illimité. On vient donc répondre directement aux nouveaux usages des jeunes générations, et on propose aussi ce service dans le monde entier. Donc on a des francophones de l'étranger qui du coup accèdent à tous ces livres francophones grâce au service YouBooks. Ce qui permet en fait donc aux éditeurs partenaires d'aller chercher ces clientèles qu'ils travaillent peut-être moins moins efficacement.
Françoise Benamou, la crainte que l'on peut avoir aujourd'hui en voyant donc ces offres d'abonnement numérique, c'est de se dire que peut-être à l'avenir, dans un avenir cauchemardesque, il n'y aura plus qu'un éditeur, j'ai bien dit qu'un éditeur, et ce sera Amazon.
On s'en est inquiété parce que c'est vrai que Amazon a beaucoup grossi, que la part de marché d'Amazon déjà sur le livre physique est importante, sur le livre numérique encore plus, qu'Amazon a donc un avantage, et dans ce monde numérique, c'est vrai que les avantages sont génèrent automatiquement des avantages encore supérieurs, en quelque sorte. Et puis, ça a l'air sans fin. Bon, alors Amazon, effectivement, est présent sur toute la chaîne du livre, et donc présent dans l'édition, dans l'auto-édition, dans la librairie, dans le cloud.
Il propose une offre d'abonnement aux États-Unis en matière de livres qui, aujourd'hui, semble-t-il, serait bloquée en France. Donc ça, c'est un aspect des choses, peut-être n'est-il que temporaire. Et donc, on se dit qu'Amazon pourrait très bien prendre des livres, les éditer et du coup capter la totalité de la chaîne.
Alors oui, on s'en inquiète, mais je ne pense pas qu'on en soit là. C'est vrai que même sans capter la totalité de la chaîne, on peut avoir un pouvoir de marché suffisant pour imposer un certain nombre de règles. Et d'ailleurs, on a vu un bras de fer qui a duré pratiquement 6 mois entre Hachette et Amazon aux États-Unis.
Car en quoi consistait ce bras de fer ?
Hachette est très fort aux États-Unis, est très présent aux États-Unis, et Amazon entendait diminuer la marge de Hachette sur notamment les livres numériques quand ils sont vendus par Amazon. Et bon, ce bras de fer a trouvé une solution qui n'est pas publique, mais on voit bien qu'on est quand même là dans quelque chose qui s'appelle un rapport de force, qui doit se construire et par rapport auquel je crois qu'un des atouts des éditeurs traditionnels, car on ne peut pas dire qu'Amazon soit proprement parlé un éditeur, même s'ils font de l'édition.
Ils peuvent racheter des éditeurs, voilà, et du coup capter leur savoir-faire.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais un des éléments qui a été très fort, ça a été le fait que les auteurs sont allés aider Hachette dans cette affaire, c'est-à-dire qu'ils ont signé des pétitions pour dire à Amazon qu'il ne fallait pas exagérer. Donc voilà,
aujourd'hui, on sent bien que c'est un monde extrêmement... Si vous n'êtes pas vendu par Amazon, quand vous êtes auteur, et a fortiori quand vous êtes éditeur, vous êtes mort.
Moi qui suis auteur, je tiens beaucoup à être vendu sur Amazon, mais je tiens beaucoup à être vendu ailleurs aussi, parce que je pense que ça n'est pas les mêmes acheteurs et que tout cela est complémentaire. Et je pense que même l'intérêt d'Amazon, au bout du compte, c'est quand même qu'il y ait quand même de la diversité.
Patrick Holzmann, on voit aujourd'hui que des sociétés comme Canal Play, comme Netflix, sont aujourd'hui des sociétés qui produisent du contenu, qui vont lancer des séries, des films pour enrichir leur catalogue. Est-ce que selon vous, c'est cela l'avenir, l'idée qu'un abonnement va se déployer finalement comme une chaîne délinéarisée? C'est compliqué à dire délinéarisée, mais cela signifie finalement qu'on fait sa télé à la carte avec donc la possibilité de regarder ce que l'on veut à l'heure où on le veut.
Alors la télé délinéarisée, comme vous dites, elle avance à grands pas. Elle se développe de plus en plus, surtout auprès des jeunes générations, auprès de nos enfants. Mais même les gens plus âgés aujourd'hui ont compris qu'on n'était pas nécessairement obligé de rester devant son téléviseur à 21h pour regarder le nouvel épisode d'une série, qu'on pouvait le voir à n'importe quelle heure et sur n'importe quel écran. Je voudrais revenir un instant sur la globalisation des produits, des films, de la musique et des livres. Je pense qu'il faut faire attention, c'est ce qui nous caractérise, vous parliez de création originale chez Canal, c'est qu'on a bien sûr cette stratégie et cette ambition de vouloir sortir de France, d'être présent et disponible partout dans le monde, mais on veille à chaque fois, non pas à exporter les mêmes produits partout et de les faire, on va dire, consommer par tout à chacun, mais essayer de respecter la culture, le local, entre guillemets, en termes de goût, en termes d'humeur, en termes de d'envie, versus d'autres acteurs étrangers qui produisent et qui essayent de produire des formats, des séries complètement standardisées avec l'ambition d'envahir un petit peu le monde et d'essayer de faire goûter et consommer uniquement ces produits imaginés aux États-Unis et de manière standard. Donc nous, on essaye, quand on produit des séries ou des films, de construire ces formats à partir de la philosophie du pays, des mentalités, des envies sociales des gens et des audiences qui nous intéressent.
Donc on voit qu'on a cette possibilité-là. Est-ce qu'à terme, vous allez devenir plus puissant que les chaînes de télévision?
Vous l'avez dit, la télévision délinéarisée, je ne crois pas à la mort de la télévision historique versus l'explosion des nouveaux acteurs. Je pense que la nature montre qu'on a cette capacité à s'auto-générer avec le temps et que les chaînes de télévision, dont c'est le métier de créer des programmes et de donner envie de les consommer, vont continuer à faire ce travail de la meilleure des façons.
Françoise Benhamou.
Je crois que les chaînes, d'ailleurs, elles-mêmes vont changer. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas simplement s'accrocher à cette télé de grille, comme on dit, où on a une grille qui est toute faite et puis on la regarde sans programmer soi-même ce que l'on veut. C'est-à-dire, je pense que même le service public va sans doute créer une plateforme, il en a déjà une, mais une plateforme avec une offre beaucoup plus variée encore. Et donc les chaînes, en tant que telles, elles-mêmes, disons, le modèle économique de la télévision lui-même va complètement évoluer à la faveur du numérique.
Hélène Mérillon, un mot de conclusion par rapport à l'avenir de ce que pourrait être le livre, un livre sans papier, ça va quand même être un drôle de livre.
Ben, le livre sera digital, au moins en partie. Moi, je ne crois pas que le livre papier, le beau livre papier, va disparaître. C'est un objet aussi de décoration et de plaisir, donc je n'y crois pas.
Le livre, j'espère que c'est pas qu'un livre par contre, qui sert à décorer quand même.
Non, mais c'est simplement, c'est un objet qu'on a envie de posséder. Par contre, ce qui va forcément évoluer, c'est les modes de découverte du livre. C'est pour ça que c'est au cœur, nous, de notre service et de ce qu'on souhaite apporter au lecteur. C'est cette prescription et ces conseils pour pouvoir découvrir et redécouvrir des livres dans une offre, je dirais, multiple et très large dans laquelle on peut aller piocher.
Et puis, en matière d'avenir, un phénomène qui, moi, me fascine, Françoise Benhamou, celui de l'auto-édition, puisqu'avec le livre numérique, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'édition de leurs propres œuvres, dont certains ont trouver un public à travers cela, et c'est une formule qui est aujourd'hui très commune aux États-Unis, qui arrive en France.
Ça s'est beaucoup, beaucoup développé aux États-Unis, effectivement, comme vous l'avez dit, à la faveur des technologies nouvelles qui permettent de faire un livre très facilement. Alors ensuite, dans l'auto-édition, il y a des tas de choses. Il y a le bouquin qu'on a envie d'écrire pour ses enfants, sa famille, etc. On raconte son histoire. Ça a toujours existé. Mais il y a aussi d'autres phénomènes peut-être plus intéressants, notamment des auteurs qui vont mettre leur livre sur des plateformes et s'auto-éditer, mais qui espèrent que les éditeurs traditionnels, si je puis dire, vont venir sur ces plateformes, les repérer et les éditer dans le monde traditionnel. Et on a beaucoup de livres qui ont connu de véritables succès chez des éditeurs traditionnels en étant tout d'abord auto-édités.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Françoise Benhamou, Le livre à l'heure numérique, papier, écran vers un nouveau vagabondage aux éditions du Seuil. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Elodie Piel, à Chantal Lemontagnier. Juste après le flash, vous retrouvez Nagui et sa bande originale. Nagui reçoit ce matin Pascal Légitimus.
France Inter.